La discussion est ouverte avec la salle. Entre chocolat et café. Brian.
J'avais une question en fait par rapport à la notion du pouvoir pastoral qu'il a aussi introduit dans son œuvre. Et du coup, en fait, que moi je visualisais plus selon mon lien justement avec le travail social. Et je me demandais si justement il était autant radical dans sa critique, étant donné que, à ce que j'ai compris de Foucault, le pouvoir pastoral avait son rôle à jouer dans le biopolitique et avait une place toute particulière justement dans les relations humaines avec l'aumônier, etc., qui avait remplacé l'Église. Et je me demandais si en fait le travailleur social n'avait pas sa place dans cette configuration du pouvoir.
Le pouvoir pastoral, donc Foucault, après avoir travaillé ces concepts de discipline et de souverain, pouvoir souverain, effectivement, travaille aussi sur le concept de pouvoir pastoral. Donc le pouvoir pastoral, mais on ne peut pas dire, le pouvoir pastoral c'est un pouvoir que l'Occident récupère directement de l'Église chrétienne, hein, et il a à voir avec comment l'Église chrétienne a construisait, disons comme ça, les conduites des individus, hein, les rapports entre les directeurs de conscience, hein, et les fidèles qui entraient dans ce processus avec les directeurs de conscience. Et donc c'est une façon de construire le sujet, hein, de construire le sujet, de construire la subjectivité de l'individu, le rapport entre directeur de conscience et fidèle. Pouvoir pastoral qui s'élargit au moment où va mis en place un concept qu'on n'a pas analysé parce qu'on n'avait pas le temps, celui de biopolitique. Biopolitique, c'est une forme de pouvoir qui ne concerne pas une petite minorité des individus fermés dans un espace, compris dans un espace fermé, mais concerne la population en général, donc une multiplicité dans un espace ouvert, avec des techniques qui sont des techniques de conduite, de conduction de conduite, hein, très spécifiques, que Foucault dit, ces pouvoirs qui venaient de l'Église chrétienne, de l'Église catholique, hein, est réorganisé à l'intérieur du welfare state, fondamentalement, et c'est une façon de suivre sur l'évolution des individus. Parce que la grande différence du pouvoir moderne par rapport au pouvoir souverain, c'est qu'effectivement, le pouvoir moderne, c'est un pouvoir d'individualisation. Pour répondre à la question, c'est un pouvoir individualisant, donc il va construire le sujet. Foucault, dans ses textes, il parle que la fonction sujet, est épinglé sur l'individualité somatique de l'individu. Un sujet coupable et responsable, fondamentalement. Hein. Cette individualisation, c'est la construction d'un sujet coupable et responsable, dont la fonction, mais à l'intérieur de ça, de ce point de vue, le travail social ne change pas radicalement. Hein. Il y a toujours cette fonction de récupérer l'individu à la normalité. Mais fondamentalement, c'est un pouvoir de normalisation. Et donc le pouvoir pastoral a cette fonction de contrôle toujours, hein, sur l'individu, la forme de contrôle. Pour sortir de cette impasse, parce que Foucault en certain moment se trouve dans une impasse, il ne sait pas très bien comment sortir, parce que la résistance est une vis-à-vis du pouvoir, hein, donc elle dépend toujours du pouvoir. La constitution du sujet, elle s'est faite un miroir par rapport au pouvoir, donc il va penser pendant les dernières 6-7 ans de sa vie, 4-5, non, 6-7, voilà. Il va penser la possibilité d'une constitution autonome du sujet, comment une subjectivité peut se constituer de façon autonome. Et donc, en dehors de cette relation avec le pouvoir. Mais là, il y a beaucoup de limites, à mon avis. Une des critiques qu'on peut adresser à Foucault, c'est qu'il n'arrive pas à penser vraiment comment on peut rompre, hein, avec cette relation d'individualisation entre les pouvoirs et les sujets. Hein. Ils donnent des exemples qui sont genre les cyniques, sont des espèces de sectes, quoi. Mais la rupture, hein, comment ça se fait la rupture avec... Parce qu'effectivement, on est pris dans cette relation de pouvoir. Il faut rompre avec cette relation de pouvoir. Seulement une fois qu'on a opéré cette rupture, hein, on peut effectivement, évidemment, mettre en place des processus de constitution autonome du sujet. Hein? Donc, toutes les dernières 4-5 cours de sa vie sont concentrées avec, sur cette question. Hein, comment constituer un rapport à soi qui ne soit pas pris dans la relation de pouvoir. Parce que jusqu'à maintenant, la subjectivité était prise dans la relation de pouvoir et toutes les institutions fonctionnaient pour ramener toujours à l'intérieur de la relation de pouvoir ce qui échappait. Ce qui essaye d'échapper, voilà. Et donc, il essaye, on voit qu'il se rend compte que dans ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, hein, il n'y a pas de dehors du pouvoir. Il n'y a pas de dehors, on est toujours pris dans la relation de pouvoir. Et là, à mon avis, c'est pas. Il manque des choses, quoi. C'est, on ne peut pas. L'exemple, par exemple, qu'ils donnent des cyniques, hein, donc les cyniques, c'est une espèce de secte philosophique de l'Antiquité qui opérait une critique, hein, des valeurs constituées à l'époque, hein, et donc ils prennent ça comme un exemple de rupture. Mais est-ce que dans la société contemporaine on peut penser comme ça? Ça, c'est plus compliqué. Les exemples de rupture, on a des ruptures seulement, des ruptures de subjectivation. À l'époque des ruptures révolutionnaires, mais des ruptures révolutionnaires, donc, ça présuppose d'autres processus, hein, que Foucault n'analyse pas, parce que Foucault a exclu la possibilité de la révolution dans le sens classique du terme. Il parle dans ses derniers rapports, dans ses derniers, effectivement, qu'une des façons d'échapper, c'est subjectivement, c'est la rupture révolutionnaire, mais il ne la développe vraiment pas. Donc, ce pouvoir pastoral, pour revenir à la question sur le pouvoir pastoral, c'est un pouvoir de contrôle, hein, c'est un pouvoir qui est passé de l'Église, hein, à l'institution étatique, et l'État l'utilise pour individualiser les contrôles. C'est les contrôles toujours plus individualisés qui vont suivre les. À l'intérieur de ce processus, il y a des expérimentations, effectivement, de penser la relation pastorale, si tu veux, entre guillemets, de façon différente, mais ça, par exemple, voilà, moi j'ai dit, l'exemple de la Tosqueyes Saint-Alban, c'est un exemple, hein, mais c'est fait par un révolutionnaire, donc c'est un truc qui a. Et d'autres exemples comme ça, il y en a, hein, mais il n'y a pas énormément cette. Le pouvoir pastoral, c'est un pouvoir de contrôle, c'est un pouvoir d'individualisation, c'est un pouvoir qui va suivre les conduites de façon individuelle. Je ne sais pas si on pourrait effectivement penser, peut-être j'ai écrit même un article sur ça, j'ai écrit un article sur RMI, et RMI, vous voyez ce que c'est RMI, qu'est-ce que c'était la RSA? RSA, c'était le revenu minimum en France, hein, et les institutions qui contrôlent, hein, ça. Parce que j'ai travaillé avec des copains qui étaient au RSA, donc qui étaient dans la situation, et comment ils sont contrôlés. Hein. Et là, effectivement, il y a un pouvoir pastoral qui s'est fait par l'institution Pôle emploi, qui contrôle. Hein. Par exemple, quand on faisait des... Il y avait des copains qui étaient au RSA, et il y avait des travailleurs sociaux, qui avait le droit de venir à la maison et de vérifier si vous habitez tout seul. Parce que vous avez droit au RSA seulement sur 450. Si vous habitez tout seul, si vous habitez avec quelqu'un d'autre, hein, le RSA est mis en discussion. Et donc ils allaient vérifier si dans la salle de bain il y avait deux brosses à dents, il y avait une chose comme ça. Donc on les attendait collectivement. C'était marrant d'ailleurs.
Mais tu parlais d'un moment de rupture.
Et on attendait ces personnes qui venaient faire le contrôle. Hein. On les attendait à plusieurs. Mais donc là, on avait un autre rapport de force. D'abord, ils étaient plus calmes, on discutait avec eux. Hein, on discutait normalement. Ils ont droit, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils rentrent. Hein. Et on les attendait à plusieurs, donc on discutait. Mais ça, au lieu de faire un contrôle, voir effectivement s'il y avait d'autres vêtements que celui qui avait déclaré, hein, voir la brosse à dents, on discutait un peu de comment était fonctionné ce travail, hein, et comment ils contrôlaient, parce qu'ils avaient le droit aussi de demander aux gens sur le même palier. Par exemple, s'il voyait entrer de façon régulière quelqu'un à la maison, c'est un contrôle, quoi. Je ne sais pas comment l'appeler. Et donc, voilà, on avait trouvé cette façon un peu collective d'essayer de... Et donc, je suis allé plusieurs fois à voir ce type. Et donc là, j'avais fait un rapport, effectivement, entre travail, entre pouvoir pastoral, comme contrôle, et cette machine de contrôle des gens qui sont au RSA. Qui sont, comment ça existe en Suisse, un minimum?
Oui, oui, oui.
Il s'appelle comment?
Pour le contrôle de vol, le revenu d'insertion.
Mais il me semble que quand tu parles des cyniques ou des possibilités sociales et historiques d'autoproduction de soi, il me semble que Foucault était un peu fasciné par le carnaval. Il disait qu'au fond, dans cette période-là, avec des masques, avec des processions, on pouvait échapper au contrôle habituel, et c'était un peu presque un paradigme de subjectivation. Ça ne te dit rien?
Non, ça ne me dit rien, ça ne me dit pas que c'était de façon... Le carnaval, bon, il y a quelqu'un qui en a parlé beaucoup mieux que Foucault, ça s'appelle Mikhail Bakhtin, je ne sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. Hein? Donc c'est un russe.
Linguiste
qui a écrit des choses magnifiques, donc une sur le carnaval qui est magnifique, donc c'est ce texte sur le carnaval. Ouais. Mais le carnaval, justement, c'était les droits concédés pendant un mois à l'année aux gens de renverser la hiérarchie sociale, hein, parce que ce qui était en haut vient en bas, ce qui est en bas va en haut, mais c'était justement pour après rentrer dans l'ordre. Hein. Ce n'était pas une véritable rupture, c'est une rupture temporelle. Hein. On essaie de façon très intelligente aux gens de. C'est un renversement de l'ordre social. Hein. Mais c'était un renversement de l'ordre social qui présupposait l'existence de l'ordre social, parce qu'une fois le carnaval terminé, c'était la carême. Hein. Donc voilà, on rentrait, les pouvoirs revenaient à qui de droit. À rupture, moi par rupture, j'entends autre chose, effectivement, un renversement des relations des pouvoirs, et en Europe, c'est l'histoire des révolutions, quoi. À partir de la Révolution française jusqu'à toutes les révolutions du XXe siècle. Hein. Et là, il y avait effectivement des ruptures, qui reviennent en arrière, mais il y a des ruptures. Foucault n'a jamais pensé ce type de... Mais parce que l'autre limite de Foucault, c'est qu'il s'est trompé complètement, mais comme toute la pensée de cette époque, sur le capitalisme. Tous les gens de cette génération n'ont rien compris à ce qui devenait le capitalisme. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Évidemment, ce n'était pas très facile à l'époque. Mais Foucault avait une idée, par exemple, que... Il pensait que la production de richesse et pauvreté, que c'est la caractéristique du capitalisme, disait, ça c'est une chose du 19e siècle. Ça existe encore aujourd'hui, mais ce n'est pas très important. Hein? Il dit ça en 79-80. Au moment où, au contraire, cette histoire va devenir absolument fondamentale. Ce qui est important pour lui, c'est la relation effectivement de production de subjectivité, comment le capitalisme produit le sujet. Il dit, ça c'est l'économie du pouvoir qui est importante, pas l'économie politique. Hein. Ce n'est pas Marx la critique de l'économie politique, ce qu'il faut faire, c'est une critique de l'économie du pouvoir. En réalité, ce qui s'est passé c'est exactement le contraire, c'est que le capital effectivement a remis au centre de son processus la production d'inégalités sociales, donc inégalités de pauvreté et richesse. Ce que Foucault considérait comme secondaire devient fondamental. Et tout le reste est réorganisé en fonction de la reproduction. Donc le capitalisme redevient effectivement le moteur. Hein, et l'économie politique du pouvoir, donc la production de subjectivité, elle est complètement subordonnée. Hein. Donc sous ça, toute cette génération s'est trompée. Hein. Parce qu'il disait effectivement néolibéralisme et il ne voyait pas cette revanche que le capital allait prendre sur les années 60-70. Hein. Ils l'ont pas vu mais du tout. Hein. Et Foucault, c'est un de ceux qui ne l'ont pas vu. Donc ils sont trompés dans l'analyse. Et même quand il fait l'analyse du néolibéralisme, il ne prend pas en considération. Le néolibéralisme est né, la première expérimentation néolibérale, comme disais tout à l'heure, a été faite au Chili de Pinochet. Hein. C'est fait, Foucault n'en parle même pas. Alors, vous savez, les Américains organisent le coup d'État au Chili, et Friedman, donc l'école de Chicago, le chef de l'école de Chicago, va rencontrer Pinochet en 1975. Hein? Et Hayek est allé rencontrer Pinochet 2 ans après. C'est-à-dire, l'instauration de l'expérimentation néolibérale s'est faite après une guerre civile. Et ça, c'est complètement effacé de l'histoire. Vous lisez Naissance de la biopolitique, hein, de Foucault, on a l'impression que le libéralisme, c'est un dispositif de modernisation du capitalisme. Hein. Mais il oublie que le présupposé, c'est le fait qu'ils ont 30 000 morts au Chili, 30 000 en Argentine, au Uruguay, etc. etc. Ils ont, c'est seulement à partir de cette dévastation de la subjectivité qu'ils peuvent implanter une nouvelle forme de subjectivité. L'entrepreneur de soi comme modèle de la subjectivité, voilà. L'entrepreneur de soi comme modèle de la subjectivité a été faite sur une destruction de la subjectivité qui était en train de faire une révolution au Chili et en Amérique du Sud. Et donc ça, sont les limites de la pensée de cette époque. Quand Foucault écrit Naissance de la biopolitique, je ne sais pas si vous avez lu, en même temps, c'est un livre 79-80, donc c'est un livre très important parce qu'il analyse le néolibéralisme, mais en direct pratiquement au moment où Thatcher va au pouvoir, mais il ne prend pas en considération cette précondition, hein, la précondition que les néolibéraux avaient bien compris, Hayek et Friedman avaient bien compris, il dit effectivement, entre Pinochet et Allende, Pinochet va me garantir la propriété parce que les néolibéraux, madame, le problème qu'ils ont, c'est comment garantir la propriété privée. Hein, et pour garantir la propriété privée, ils sont capables, ils vont jusqu'à à Pinochet. C'est que Hayek et Friedman ont dit clairement dans une interview qu'ils ont fait au journal espagnol, argentin, non, chilien, à l'époque. Pendant l'occupation, d'ailleurs, une des réunions de la société San Pellegrin, cette société qui a inventé le néolibéralisme, a été faite au Chili. En 80, ils sont allés faire une réunion de cette société des grands économistes néolibéraux. Ils sont allés faire sur les cadavres de 30 000 personnes. Quoi. Voilà. Donc ces petits problèmes, il n'est pas pris en considération, c'est un gros problème en réalité.
C'est la société du Mont-Pèlerin,
oui.
Ici dans le canton de Vaud, donc, qui a été effectivement...
Ben, une de ces réunions, ils l'ont fait au Chili, voilà. Dans une localité à la mer, donc avec les fachos, ils étaient très bien, ils étaient à l'aise.
Une autre question, Jacques?
Il y a un vieux livre de Simone Veil qui s'appelle La condition ouvrière, où elle raconte les grèves de 1936 qui ont le mérite d'occuper les usines, c'est-à-dire que les ouvriers non seulement deviennent maîtres d'espace, mais aussi du temps. Et dans cette histoire-là, les ouvriers accordent aux contremaîtres le pouvoir d'entrée dans l'usine et le pouvoir de sortie. Donc les contremaîtres doivent quémander des bons de sortie. Donc il y a un renversement assez massif des rapports de domination. Et qu'à un moment donné, cette période qu'on pourrait décrire comme révolutionnaire, je trouve que c'est bien sûr lié au Front populaire, il y a quelque chose qui s'élabore, qui est d'ordre d'une rupture, hein, même si les effets ne sont pas durables, mais il y a une rupture sur le rapport autoritaire, donc une rupture dans le cadre disciplinaire qui est celui de l'espace et des rapports hiérarchiques. Mais ce qu'elle décrit aussi, c'est que ce qui fait ciment chez les ouvriers qui campent sur place, c'est non seulement ce sentiment de maîtrise parce qu'on fait taire les machines, mais aussi ce sentiment de réappropriation de la vie. Donc je pense à ça, on pourrait penser à la Commune de Paris, on pourrait penser à ces éléments révolutionnaires qui font qu'à un moment donné, il y a eu des petits exemples où non seulement des gens prennent l'intelligence et s'attribuent un pouvoir, que ce pouvoir il est pris contre, hein, donc c'est-à-dire qu'on réduit les puissants à l'impuissance, et puis que le problème c'est de savoir où disparaît tout ça. C'est ce qui fait qu'en 1937, c'est fini, et Daladié prend le pouvoir, et on recommence. Alors là, chez Foucault, par exemple, hein, est-ce que dans ces... Foucault parle un peu hein, de ces petites expériences, en tout cas à ma connaissance, hein, révolutionnaires, où pourtant jaillit quelque chose qui est de l'ordre non seulement d'un contre-pouvoir qui n'est pas symétrique, mais qui est autre.
Non, il n'en parle pas vraiment, mais en Italie, on a parlé beaucoup plus parce qu'on avait élaboré une catégorie qui s'appelait refus du travail. Donc, le refus du travail, c'était vraiment ça. C'était une catégorie de comment rompre la relation disciplinaire avec le travail. Hein. Refus du travail, ça veut dire refuser la relation. Hein. Ce n'est pas tellement refuser le travail en tant que production. Hein. C'est refuser la relation de commandement et de subordination. Hein. Donc, à ce moment-là, et les grèves sont un exemple très évident, c'est qu'effectivement, c'est l'interruption du temps. L'interruption du temps, cette interruption du temps permet en même temps, effectivement, d'avoir une relation de pouvoir nouvelle avec la hiérarchie disciplinaire et en même temps ouvrir une possibilité de production d'une subjectivité nouvelle. C'est-à-dire, le refus, l'interruption crée de nouvelles possibilités. C'est ça. La chose fondamentale, et c'est que Foucault analyse de façon très étonnante par rapport à la révolution iranienne, hein, mais pas par rapport. En réalité, ce qui est important, c'est qu'effectivement, le refus, la rupture, donc le refus du continuum du temps de la domination, hein, c'est important parce qu'il crée des possibles que avant cette rupture, ils étaient même inimaginables. Hein. C'est ça. C'est la possibilité. Et après, c'est possible, sont seulement des possibles, il faut les réaliser. Hein. Et là, quand on les réalise, il faut les réaliser par rapport au pouvoir. Donc, c'est pour ça que ça peut se renfermer très rapidement, hein, comme en 37, ou comme dans d'autres situations, comme dans une grève. Hein, vous perdez et cette possibilité sont renfermées. Mais ce que dit Benjamin, c'est le moment, c'est que c'est possible qu'elles soient encore là. Hein. On peut toujours les réactualiser. En réalité, ce sont des possibles non réalisés, mais qui sont toujours présentes. Il faut le refus, la rupture, peut aller retrouver ces possibles non réalisés, hein, les passés des luttes qui ont eu lieu, et créer une nouvelle constellation. Donc cette façon de penser, donc, qu'on peut trouver sous Benjamin, et qu'on peut trouver chez d'autres, chez Foucault, elle n'est pas tellement prise en considération. Hein. Parce que lui dit que son problème était toujours, à la fin de sa vie, dans un article très important qui s'appelle « Sujet et pouvoir » de 82. Donc il fait un peu le résumé de toute sa théorie, il dit que son problème, ça a été toujours le sujet, hein, pas le pouvoir. En réalité, à mon avis, une partie c'est vrai, mais il avait pensé vraiment le pouvoir et il n'avait pas trouvé la façon de sortir de cette relation symétrique, asymétrique, mais un miroir des relations de pouvoir. Il n'avait pas trouvé la façon de sortir et seulement des pratiques de rupture, de refus, d'interruption du cours normal des choses peuvent pas seulement bloquer les relations de pouvoir, mais, chose fondamentale, ouvrir de nouveaux possibles. Hein. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la capacité d'ouvrir de nouveaux possibles. Hein. C'est seulement à l'intérieur de cette ouverture de nouveaux possibles qu'on peut redéfinir les relations sociales, les relations de pouvoir, les relations de pouvoir pour les relations sociales. Je pense que c'est aussi, je ne connais pas, mais la difficulté, même dans le travail quotidien, c'est effectivement dans la relation qu'il y ait des nouveaux possibles qui émergent. Si ces nouveaux possibles ne sont pas là, les gens ne vont pas s'impliquer et dans la réalisation de ces nouveaux possibles. Hein. Si ces nouveaux possibles émergent, mais ils sont seulement des possibles, il faut qu'ils deviennent quelque chose de réel, pour devenir quelque chose de réel, il faut un travail. Il faut une construction politique, il faut une construction subjective. Donc voilà. Ça, c'est un peu, je trouve, ce qui manque chez Foucault. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein. Parce que le discours, lui, il a abandonné, parce qu'en réalité, il a abandonné le discours sur la guerre. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il passe entre 71 et 76, il pense le modèle social, la relation de pouvoir comme relation de guerre. La guerre civile, c'est en réalité le modèle de relation sociale. On est toujours dans la guerre civile et une des premières fonctions du pouvoir, c'est masquer la guerre civile. C'est ça qu'il dit. Hein? Après, il abandonne ce modèle, il va vers le modèle de la gouvernementalité. Ce n'est pas un modèle d'affrontement guerrier, mais un affrontement de gouvernementalité, donc entre gouvernant et gouverné. Moi, je pense qu'à l'intérieur de gouvernant et gouverné, c'est la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, on est pris dans... Quand on est dans la situation de gouvernant et gouverné, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire, on a des gouvernants et, nous, on est des gouvernés. Mais il faut sortir de cette relation pour créer quelque chose de nouveau. Si on reste à l'intérieur de cette situation gouvernant-gouverné, hein, on est dans la continuation des rapports de pouvoir tels qu'ils sont donnés. On est dans le néolibéralisme. Hein. Le moment intéressant, c'est le moment où les gens essayent de sortir, de façon même ambiguë, comme sont en train de faire les Gilets jaunes en France, hein, de sortir de la gouvernementalité. Si on ne sort pas de la gouvernementalité, il n'y a pas de chance de pouvoir inventer quelque chose de nouveau. Hein. Je pense, c'est ma position. Il faut sortir de cette emprise dans laquelle on est. On est effectivement, on est libre. Hein. Comme on dit, pouvoir, la relation, c'est une relation entre le gouvernement et le gouverné. En tant que gouverné, vous êtes libre, mais libre à l'intérieur de la gouvernementalité. Donc, vous êtes libre à l'intérieur de ce type de relation. Donc, c'est une liberté qui est une liberté encadrée par la gouvernementalité.
Merci. On va s'arrêter là. En remerciant encore une fois Mauricio Lerato de sa contribution, ses éclairages par rapport à Michel Foucault qui ont été en complément à ce que nous avons pu discuter ce matin. Je vous remercie encore de votre présence et de votre participation. Le bar est ouvert pour pouvoir continuer à discuter de Foucault, entre autres.
Ou pas.
Ou pas. On peut applaudir.